Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts intitulée « Un été de science entre la France et les États-Unis ». 12 histoires de découvertes, d'inventions et de collaborations scientifiques de Benjamin Franklin à l'intelligence artificielle. Pendant l'été, je vous proposerai chaque semaine une courte histoire. Une histoire vraie, une histoire de science qui relie la France et les États-Unis. Pourquoi cette série? Parce qu'à l'heure où les États-Unis célèbrent le 4 juillet l'anniversaire de leur indépendance, il m'a semblé intéressant de rappeler combien les histoires scientifiques de nos deux pays sont profondément entremêlés. Cette collaboration est aujourd'hui fragilisée. Pour des raisons politiques, des programmes sont remis en cause, des financements diminuent et certains échanges deviennent plus difficiles. C'est aussi pour rappeler la valeur de cette histoire commune que nous avons souhaité réaliser cette série de podcasts vidéo. Les relations entre les nations sont souvent décrites à travers la politique, l'économie, les conflits ou les rapports de puissance. Pourtant, il existe une autre histoire, plus discrète mais tout aussi importante, celle des idées qui circulent, des chercheurs qui voyagent et des collaborations qui se construisent parfois sur plusieurs générations. Depuis 250 ans, la France et les États-Unis entretiennent ainsi un dialogue scientifique permanent. Cette histoire commence avant même la naissance des États-Unis, lorsque Benjamin Franklin arrive à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Il n'est pas seulement diplomate, il est déjà l'un des scientifiques les plus célèbres au monde grâce à ses travaux sur l'électricité. Les savants français l'accueillent comme un des leurs. Les académies lui ouvrent leurs portes. Franklin comprend très vite quelque chose d'essentiel. La science crée des liens de confiance qui dépassent les frontières politiques. J'ai récemment eu entre les mains un document particulièrement émouvant, la traduction française des premières constitutions des États-Unis, réalisée sous l'autorité même de Franklin. Bien sûr, il y avait derrière cette publication un objectif diplomatique. Les jeunes États-Unis avaient besoin du soutien de la France contre l'Angleterre. Pour Nicolas Condorcet, l'ami de Benjamin Franklin, les savants du monde forment une république universelle des sciences, dont les frontières ne coïncident pas avec celles des États, une communauté intellectuelle internationale qui ne supprime pas les nations, mais qui crée un espace de dialogue au-dessus d'elle. Cette histoire franco-américaine n'est pas seulement une histoire que j'ai lue dans les livres, c'est aussi en partie ma propre histoire. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de mon arrivée à New York en 1982. J'avais 28 ans. J'avais déjà vécu une expérience postdoctorale au Brésil qui m'avait profondément marqué. Je parlais portugais, mais je baragouinais à peine l'anglais. Je débarquais dans une ville immense, bruyante, fascinante, avec l'impression d'arriver dans un autre monde. J'allais passer une année à enseigner au Queen's College de la City University de New York. J'y enseignais l'analyse numérique. Mon mentor en avait décidé ainsi. Il avait raison, cette expérience a été d'une richesse infinie pour la suite de ma carrière. J'habitais en face de l'université Columbia et j'y ai découvert une autre manière de faire des mathématiques et plus généralement une autre manière de faire de la science. Les différences étaient nombreuses. Mes étudiants de première année avaient souvent des connaissances mathématiques beaucoup plus faibles que celles des élèves des grandes écoles françaises que je connaissais. Les références culturelles étaient différentes, les méthodes pédagogiques aussi. Il m'a fallu apprendre à enseigner. J'appréciais qu'un professeur senior bienveillant venait parfois assister à mes cours et prenait ensuite le temps d'en discuter avec moi. Et puis, il m'a fallu apprendre l'anglais. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute l'atmosphère intellectuelle. Chaque semaine se tenait le colloquium des mathématiques à Columbia. Je crois bien n'en avoir manqué aucun. Chaque fois, un mathématicien de tout premier plan venait présenter, devant un auditoire très large, une idée importante de son domaine, différent à chaque fois. L'objectif n'était pas d'impressionner par sa technicité, il s'agissait de partager une vision. Pour le jeune chercheur que j'étais, ce fut une révélation. J'y ai découvert une culture de la discussion scientifique extrêmement ouverte. Les portes du bureau étaient ouvertes. Les conversations commençaient dans les couloirs et se poursuivaient au café. Café américain, malheureusement. Les étudiants osaient poser des questions. Les chercheurs échangeaient librement leurs idées. Bien sûr, tout n'était pas parfait. J'ai aussi découvert les inégalités du système universitaire américain, les difficultés rencontrées par certains étudiants et une compétition parfois rude. Derrière les grandes découvertes, il y a toujours des femmes et des hommes qui se rencontrent, qui discutent, qui se comprennent parfois difficilement, surtout lorsqu'ils parlent mal l'anglais, mais qui finissent par construire quelque chose ensemble. Et c'est sans doute pour cela que cette histoire des relations scientifiques entre la France et les États-Unis me touche particulièrement. Car depuis Franklin jusqu'à aujourd'hui, cette histoire est avant tout une histoire de rencontre. Au XIXe siècle, les scientifiques traversent l'Atlantique de plus en plus souvent. Ils correspondent, lisent les mêmes revues, participent aux mêmes congrès. Au XXe siècle, les collaborations deviennent immenses. Physique, mathématiques, astronomie, biologie, médecine, informatique, exploration spatiale. Les échanges se multiplient dans toutes les disciplines. Mais il ne faut pas idéaliser cette belle histoire. La science internationale n'est pas un monde paisible où tout le monde s'entend naturellement. Les rivalités y sont fortes, les questions de prestige national sont omniprésentes. Les scientifiques ont des égos parfois considérables. Et les États comprennent vite que la science représente aussi une puissance économique, militaire et politique. Le XXe siècle en fournit des exemples saisissants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux scientifiques européens fuient vers les États-Unis. Cette migration intellectuelle transforme profondément la science américaine. Les collaborations deviennent intenses, notamment en physique. Mais elle se développe dans un contexte tragique, celui de la guerre et de la fabrication de la bombe atomique. La collaboration scientifique peut donc produire le meilleur, mais elle peut aussi être liée aux périodes les plus sombres de l'histoire. Même aujourd'hui, alors que nous parlons volontiers de mondialisation scientifique, les tensions demeurent nombreuses, les financements sont en compétition. Certains résultats sont gardés secrets. Les relations géopolitiques influencent fortement les échanges universitaires. Et la circulation des chercheurs devient plus difficile dès que les crises internationales réapparaissent. La domination de l'anglais crée parfois des déséquilibres. Une langue commune est indispensable, mais elle produit aussi une homogénéisation intellectuelle qui appauvrit certaines nuances scientifiques et certaines traditions de pensée. Ne nous voilons pas la face. La science est souvent un outil de pouvoir et de domination. Les missiles qui tuent tant d'innocents sont pleins de science. Nous en portons la responsabilité collective, même si elle est souvent indirecte et parfois inconsciente. Une république universelle des sciences ne devrait pas être un empire culturel. Autrement dit, la coopération scientifique n'est jamais acquise, elle doit être reconstruite en permanence. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, quelque chose continue de fonctionner. Lorsqu'on entre aujourd'hui dans un grand laboratoire, dans une conférence internationale, on voit souvent travailler ensemble des chercheurs venus de dizaines de pays différents. Les grands défis contemporains, le climat, la santé, l'intelligence artificielle, l'énergie, l'espace, dépassent largement les capacités d'une seule nation. Aucun pays, même le plus puissant, ne peut aujourd'hui prétendre comprendre seul le monde. C'est la leçon de cette histoire. La science n'efface pas les différences entre les peuples. Elle ne supprime ni les conflits, ni les rivalités, ni les intérêts nationaux. Mais elle oblige malgré tout à inventer un langage commun. Elle crée des habitudes de dialogue, des formes de confiance, souvent même des amitiés durables entre personnes qui, sans elle, ne se serait jamais rencontrée. Dans un monde qui semble tenté par le repli, il reste quelque chose de profondément réconfortant dans le fait qu'un mathématicien français, une biologiste américaine, un physicien chinois ou un informaticien indien puissent encore travailler ensemble autour d'une même expérience, d'une même question ou parfois même d'une simple équation. La coopération scientifique internationale n'est jamais parfaite. Elle échoue parfois, elle connaît des crises. Mais lorsqu'elle fonctionne, elle représente peut-être l'un des exemples les plus concrets de ce que les nations peuvent construire ensemble sans renoncer à leur diversité. C'est précisément ce que raconte les 12 épisodes que vous allez découvrir. Bien entendu, ils ne prétendent pas raconter toute l'histoire des relations scientifiques entre la France et les États-Unis. Il faudrait des centaines d'heures pour cela. Nous avons simplement choisi 12 exemples, 12 aventures humaines et scientifiques. Vous rencontrerez des astronomes observant les galaxies depuis le mont Wilson en Californie. Vous suivrez Benjamin Franklin dans les salons parisiens du XVIIIe siècle. Vous plongerez au milieu de l'océan Atlantique avec des géophysiciens qui ont contribué à comprendre la tectonique des plaques. Chaque épisode est raconté par une scientifique ou un scientifique qui connaît intimement son sujet. Mais au-delà des découvertes elles-mêmes, vous entendrez surtout des histoires humaines, des histoires d'amitié, de voyage, de discussion, parfois passionné. Alors, tout au long de cet été, je vous donne rendez-vous chaque semaine pour découvrir un nouvel épisode, de courts épisodes tournés par Cortex Media avec 12 éminents collègues que je remercie chaleureusement. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à les écouter que nous en avons eu à les préparer. Je vous souhaite un très bel été, de belles découvertes et surtout une excellente écoute. Vous avez entendu le début de Appalachian Spring par le compositeur américain Aaron Copland. That's all, folks.
petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.